Merci, frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment un privilège d'être ici ce soir. Je suis si heureux que Dieu nous ait permis d'y être. Je suis un peu mal à l'aise devant les appareils photo. J'aime, allez-y, prenez-en. Ça ne fait rien. Je les ai à l'œil, c'est tout. Je suis conscient de leur présence. Et ça ne fait rien, c'est bien. Maintenant, il fait un peu chaud. Nous avons eu deux messages extraordinaires de la part du Seigneur. Et maintenant, ce soir, j'ai pensé, vu que beaucoup de mes amis qui sont ici auront un long trajet à faire en voiture. Certains viennent du sud du Kentucky. Je vois frère Welch Evans et sa famille ici, de Tifton, en Géorgie. J'ai rencontré des gens qui étaient ici de la Californie. Il y en a ici de l'Allemagne et de différents endroits. Ils se retrouvent tous ici, dans ce petit lieu, pour servir le Seigneur. Et je vois sœur Nellie Cox. Je crois que sa belle-mère et les autres sont ici. Et ils parcourront peut-être de nombreux milles ce soir pour rentrer au Kentucky, en Géorgie, là-bas dans le Tennessee, là-haut dans l'Ohio. Mes amis qui sont ici. Un ami, frère Ted Dudley, a fait tout le trajet jusqu'ici, depuis Phoenix en Arizona. Il y en a beaucoup d'autres ici, si je pouvais arriver à tous les nommer, qui sont venus pour être avec nous aujourd'hui. 90% d'entre eux, je n'ai même pas pu leur toucher la main. Je vois mes amis de Chicago et d'un peu partout. Combien y a-t-il de gens ici qui sont étrangers à la ville? Levez la main. 90% de l'auditoire. Donc, il se compose de différents amis venus de différentes églises d'un peu partout dans le pays. Et ce matin, j'ai prêché longtemps. J'ai prié pour les malades jusqu'à 1h30. Alors, je suis un tout petit peu enroué. Et il va falloir que je prêche pendant un petit moment avant de passer, comme on dit, en deuxième vitesse. Il y a frère Lee Vale. C'est à peine si j'ai pu lui serrer la main, l'un de mes associés de l'église baptiste dans l'Ohio. Est-ce bien toi, Ben? Je ne t'avais pas encore entendu dire Amen, sinon je t'aurais reconnu. Tout le monde connaît frère Ben. Et je sais qu'il habite à l'extérieur de la ville. Alors, je ne sais pas exactement où habites-tu maintenant, frère Ben? Borden, dans l'Indiana. Nous sommes vraiment contents que vous soyez ici, chacun de vous. Et maintenant, je ne vais pas vous retenir très longtemps, vu le très grand nombre de milles que vous aurez à parcourir en voiture. Je voudrais bien pouvoir emmener chacun de vous chez moi ce soir. C'est sérieux, ce que je vous dis là. Je dois partir vers 3 heures, entre 3 et 4 heures du matin. Et je voudrais bien pouvoir vous emmener avec moi. Je vois mon ami ici, de l'Arkansas, sa femme. N'êtes-vous pas l'homme à qui le Seigneur a parlé et dit ces choses ici l'autre soir? Je pensais bien que c'était vous. En promenant le regard là, on voit de nouveaux et de vieux amis. Aussi, Dieu connaît les intentions de mon cœur. Que j'aimerais vous voir et vous emmener chez moi. Et bavarder pendant un bon moment. Mais un jour, nous le ferons. Là-bas, où nous n'aurons plus à dire, il faut se dépêcher, il faut aller chercher les enfants, quelqu'un est malade. Tout ça, à ce moment-là, se sera terminé. En ce grand jour-là, j'espère que nous nous rencontrerons encore bien des fois. Mon intention maintenant, pendant que je m'attends au Seigneur, c'est de trouver la direction que je dois prendre. Maintenant, mardi, j'aurai besoin de prières plus que je n'en ai jamais eu besoin de toute ma vie. Je vous demanderai de prier pour moi. J'aurai besoin de vos prières. Ne manquez pas de prier pour moi. La tournure que prendront les événements mardi pourrait avoir une portée énorme pour moi et pour l'Église et pour la cause de Christ. Alors, ne manquez pas de prier pour moi. Donc, maintenant, jusqu'à ce que j'aie trouvé quelle direction je dois prendre et ce que je dois faire, je m'attends au Seigneur. Entre-temps, je resterai près du tabernacle ici. J'y viendrai régulièrement. Je prêcherai, je prierai pour les malades, je ferai tout ce que je peux faire. Nous voudrions un jour, si le gouvernement ne nous en empêche pas, nous voudrions construire une église ici, une belle église, où nous aurions assez de place assise, une salle principale et un balcon, et tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment une belle église, climatisée, pour que ce soit agréable pour les gens d'y être assis, à écouter les réunions, si on nous laisse le faire. C'est ce que nous espérons. Maintenant, priez pour nous. Et maintenant, ce soir, nous allons aborder le sujet dont je vous avais promis ce matin que j'allais parler ce soir, si c'était la volonté du Seigneur. Et ce sera un peu comme un enseignement à cause de ma voix. Je veux parler ce soir de 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. 5 confirmations précises de la véritable Église, ou identification plutôt, de la véritable Église. Maintenant, avant d'aborder ce grand et imposant sujet, je vais demander qu'on prononce un mot de prière. Je vais demander à notre pasteur, Frère Neville, de bien vouloir venir adresser une prière pour la parole de Dieu. Pendant que nous prenons tous ensemble dans Matthieu, au chapitre 16, le verset 18, pour commencer. Matthieu 16, 18. Pendant que Frère Neville s'avance pour la prière de consolation.
We're thankful tonight for the tug and the pull and the leadership of the Holy Spirit. We appreciate our God that you're that God that came down to be in us and even with us to the end of this world. Father, the great problems and the trials of tomorrow will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other. Enough until there will be unity between us until we can serve thee together.
Yes.
Father, we thank thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of thy servant whom thou didst ordain, whom thou didst elect to this position, whom thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days which are to be the testing upon my brother and our brother and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise.
Grant it, Lord.
To try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be opened with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly and before thee, O Lord Jesus. Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, we pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing.
Amen.
Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick and hast redeemed the lost and hast been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat and bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds.
Yes.
And, oh, God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Amen. Est-ce qu'on a mis tout le volume? Est-ce que tout est en marche? Tout est en marche? Est-ce que c'est le micro, le bon micro? Est-ce que vous m'entendez bien? Tout au fond, est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Je voudrais lire maintenant dans le livre de Matthieu au chapitre 16 et au verset 18. Je vais commencer au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Il y a le mot « Église » dans chacun des sujets dont j'ai choisi ce soir d'essayer de vous parler. L'un d'eux, c'est « Qu'est-ce que l'Église ? Qui l'a établie ? Quel est son message ? Comment en devenons-nous un membre ? Et pouvons-nous aller au ciel sans en être un membre ? Or, on pourrait passer des heures sur chacun de ces sujets-là, aller passer au peigne fin. Mais j'aimerais simplement aborder quelques points fondamentaux pour montrer ce qu'est la vraie Église. Et maintenant, je voudrais que vous ayez votre Bible en main. Maintenant, premièrement, le mot « Église » lui-même veut dire « les appeler à sortir ». Or, Israël n'était pas l'Église de Dieu. Tant qu'ils ont été en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte, ils sont devenus l'Église de Dieu, parce qu'ils étaient les appelés à sortir. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot « Église » veut dire « les appelés à sortir ». Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés, rendus différents. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'Église connue d'alors était appelée le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Bon, je tire ça de la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'Église était appelée le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu est un roi et l'Église est son domaine. Le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Oh, j'aime ça, messianique. Autrement dit, l'Empire du Messie, où le Messie gouverne et règne. Aucune barrière dénominationnelle, ni rien. Le Messie gouverne dans son empire. C'est merveilleux de penser à ça, n'est-ce pas? L'empire messianique. Donc, l'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un rassemblement de gens. L'Église est le peuple de Dieu, qui a été appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. Voici quelque chose qui mérite d'être répété. Il y a quelques mois, ma femme et moi, nous allions au centre commercial et nous avons vu une chose étrange. Il y avait une femme dans la rue, elle portait une jupe. Ah, vous ne croirez pas ça, mais c'est vrai, nous en avons vu une. Et ma femme m'a dit, « Eh bien, regarde ça !» J'ai dit, « Elle doit être chrétienne. Elle est si différente. C'est honteux. » Alors la question a été soulevée, « Comment se fait-il, Bill, que nous, en tant que chrétiens, et avec la foi en cette croyance que nous avons, comment se fait-il que chez nous, nous fassions porter des robes aux femmes, que nous les fassions agir comme ça ? Est-ce que ce n'est pas le cas des gens des autres églises ? Elles portent ce genre de vêtements-là, des vêtements indécents. Et comment ça ? On ne peut pas affirmer qu'elles sont immorales. J'ai dit, c'est vrai, je ne peux juger personne. Mais allez voir, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Peut-être qu'elles ne commettent pas le crime en tant que telles. Mais il y a sur elle un esprit qui les pousse à l'immoralité. Or, Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Maintenant, quand ce pécheur aura à rendre des comptes pour avoir commis adultère, qui sera la coupable ? La femme qui a exhibé sa personne. Vous auriez beau être aussi pur qu'un lys quant à la chasteté, mais si vous vous êtes exhibé en tenue indécente devant les gens, bien que vous soyez innocente d'avoir commis l'acte, vous avez incité un homme à avoir de mauvaises pensées à votre sujet, alors que c'était de votre faute. Jésus a dit que vous serez coupable d'avoir commis adultère, et une adultère n'entrera jamais au ciel. Mais en parcourant le monde, je constate que chaque nation a son esprit qui lui est propre. Et toutes les nations sont contrôlées par le diable. Tous les gouvernements sont dirigés par le diable. C'est ce que la Bible dit. Ils se battent, ils se font la guerre. Et c'est ce qu'ils feront jusqu'à ce que Jésus vienne. Et alors, il établira un royaume où il n'y aura pas de guerre. Mais Satan a dit que tous les royaumes du monde lui appartenaient et qu'il en ferait ce qu'il voudrait. Il l'a même dit en face à Jésus-Christ. Et tous, ce sont les instruments de Satan, les royaumes de Satan. Satan a dit à Jésus, « Je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Jésus savait qu'il en hériterait dans le millénium. Alors il a dit, « Retire-toi, Satan. » Il savait que Dieu lui donnerait tous les royaumes, que ceux-ci lui appartiendraient et qu'ils formeraient tous un seul royaume. Quand on va en Allemagne, on y trouve un esprit allemand. On va en Angleterre, on y trouve un esprit anglais. On va en Suède, on y trouve un esprit suédois. On va en France, on y trouve un esprit français. On vient en Amérique, on y trouve un esprit américain. Il y a quelque temps, je me suis arrêté à Saint-Ange, à Rome, et je voulais voir les catacombes. Et à ma grande surprise, et quelle réprimande pour moi qui suis américain. Devant la porte des catacombes, à l'entrée, il était dit, à l'intention des femmes américaines, avant d'entrer ici, veuillez vous habiller pour honorer les morts. Quand une nation tombe aussi bas, c'est terrible quand on en arrive là. Alors, vous voyez, parce que, une fois, j'ai demandé à une femme, êtes-vous chrétienne ? Elle a dit, je suis américaine. Évidemment que je suis chrétienne. Ça n'a aucun rapport. Frère Bosworth a demandé à une femme un soir, il a dit, êtes-vous chrétienne, sœur ? Elle a dit, sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs. Comme si ça avait un rapport quelconque avec le christianisme, ça, de faire brûler un cierge. Le christianisme ne consiste pas en de telles choses. Et l'Église de Dieu ne consiste pas en de telles inventions. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les femmes, nous ne les forçons jamais, les femmes, à faire ça. Nous ne forçons jamais nos hommes à ne pas boire, à ne pas jurer. Nous prêchons l'Évangile, c'est tout. Et nous présentons le modèle de la Bible. Il y a des hommes qui embrassent la croyance des pentecôtistes et la croyance de ceux de la sainteté. Ils y adhèrent et c'est ce qu'ils font profession d'être, alors que dans leur cœur, ils ne le sont pas. Bien des femmes font la même chose. Nous ne leur disons pas qu'ils sont obligés de le faire. Nous leur présentons le modèle, c'est tout. Nous leur disons ce que la Bible dit. Et s'ils sont nés d'un esprit céleste, alors leur esprit n'est plus marqué par l'Amérique. Il n'est plus marqué par l'Allemagne. Il est marqué par le ciel, où se trouve le royaume de Dieu. En effet, nous sommes dans un autre royaume, un royaume de Dieu, où existe la décence, la sainteté et la puissance. Nous avons accès à notre roi. Nous avons un entretien avec lui chaque fois que nous désirons l'invoquer. Nous n'avons aucun autre intercesseur, aucun autre médiateur entre le roi et nous que cet homme, Jésus-Christ, lui seul. Donc, nous vivons dans un royaume. Et celui-ci est appelé, dans la chronologie de la Bible, le royaume messianique. Messianique. Autrement dit, où le Messie gouverne dans chaque vie qu'il y a dans son empire, où il gouverne la vie de son peuple, un peuple qui était appelé à sortir de tous les milieux. Il les rassemble dans un groupe qu'il appelle son Église, où ses appelés à sortir. C'est beau ça, n'est-ce pas? Or, Israël a été le peuple de Dieu jusqu'à ce que, ce qui se trouve dans Actes 7:38, si vous prenez des notes, jusqu'à ce qu'ils soient appelés l'Église de Dieu, parce qu'ils ont été appelés par Dieu à sortir de l'Égypte, à sortir du monde, à quitter les autres églises, à quitter les autres religions pour marcher avec Dieu seul. Et maintenant, c'est la même chose que à l'Église de Dieu aujourd'hui, appelée à sortir de tout ce qui est du monde, appelée à sortir de toutes les sectes religieuses, appelée à sortir de toute dénomination religieuse, appelée à sortir de toutes les organisations religieuses pour marcher avec Dieu, en n'étant pas gouverné par un évêque, mais en étant gouverné par Christ, dans ce royaume messianique où nous vivons. C'est Christ qui est le roi. C'est Christ. Donc Christ en est le chef. Christ est le chef de ce royaume messianique. Et on ne peut pas faire une organisation d'un royaume dont Christ est le chef. On ne peut pas faire une dénomination d'un royaume dont Christ est le chef, parce que Christ en est le roi. Et on ne peut pas se servir de l'intellect d'un homme pour former une organisation que Christ gouvernera. Par conséquent, toute société, tout peuple, tout groupe d'hommes qui essaye d'organiser le royaume de Dieu va à l'encontre du roi. Et s'ils vont à l'encontre du roi, ce serait de s'opposer au roi. Donc, si c'est quelque chose qui s'oppose au roi, ce serait quelque chose qui est antichrist. C'est assez percutant, ça. Si seulement j'avais un peu plus de voix, nous rendrions ça encore plus clair. C'est quelque chose qui est antichrist. Et si vous voulez me supporter pendant quelques minutes, je vais le prouver. Un esprit antichrist qui cherche à s'emparer des gens et qui les appelle à passer d'une organisation à l'autre, qui les rassemble dans une organisation, ce qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Les gens m'ont toujours fait des histoires parce que j'attaquais si vivement les organisations. Ce ne sont pas les gens qui y sont que j'attaque. C'est cet esprit dominateur qui fait que les gens pensent « c'est nous ce peuple-là ». Le peuple de Dieu, c'est son peuple appelé à sortir. Je crois qu'il se trouve dans toutes les dénominations. Il pourrait être catholique, il pourrait être protestant, il pourrait être juif, il pourrait être de n'importe quelle espèce d'église. Mais la vraie église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Or, on ne peut pas faire du corps mystique de Christ une organisation. Maintenant, chaque personne qui vient à Christ sort du monde, entre en Christ, entre dans son corps mystique. Et vous êtes un membre de ce corps-là quand vous avez été intégré dans cette Église, que vous avez été appelé à sortir et que vous êtes entré dans ce corps mystique par le baptême. Vous saisissez? Pas celui des méthodistes, ni des baptistes, ni des pentecôtistes, ni des nazaréens, ni des pèlerins de la sainteté, ni des catholiques, mais le corps de Jésus-Christ. Dans quelques minutes, nous verrons ça un peu plus en profondeur, en abordant d'autres questions, en avançant pour nous engager dans les parties plus profondes. Mais le corps de Christ, c'est l'Église. Or, il l'a comparé dans bien des paraboles, par exemple, à un mari et sa femme. Il appelle l'Église l'épouse. Et l'épouse n'est plus, et l'époux, ce ne sont plus deux personnes. Ils sont un. Elle est chair de sa chair et os de son os. Et alors, quand un homme ou une femme ont été appelés à entrer dans le corps mystique de Christ par le Saint-Esprit, ils deviennent membres à part entière de ce corps, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. En effet, Dieu a pris l'Esprit qui était en Christ. Il a ressuscité son corps et l'a placé sur son trône. Et il a fait revenir le Saint-Esprit pour que soit formé le corps mystique de Christ, lequel sera réuni au souper des noces à la venue du Seigneur. On ne peut pas en faire une organisation. C'est un mystère. Jésus a dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne peut pas comprendre ça. Ça vient de quelque part. Ce n'est pas méthodiste, ce n'est pas baptiste, ce n'est pas pentecôtiste. Ce n'est aucune organisation. C'est une naissance. D'entrer par une naissance dans le royaume de Dieu. Donc, d'essayer d'en faire une organisation, alors ça devient quelque chose qui est antichrist. Parce que tout ce qui est contre l'enseignement de Christ est antichrist. Mais alors, cette organisation, elle a commencé où? Jésus, quand il était sur terre, il n'a jamais organisé aucune église. Il a parlé d'une église qui allait venir, mais il n'a jamais organisé aucune église. Il n'y a pas eu une seule église organisée avant des centaines d'années, après la mort du dernier apôtre. Et la première église organisée qui a existé sur terre a été l'église catholique romaine. Or, j'ai les pères avant Nicée, le livre des martyrs de Fox, les écrits de Joseph, les âges primitifs de Pemberman, et beaucoup d'ouvrages des grands écrivains de l'histoire ancienne. Et nulle part il n'est écrit dans aucune page de l'histoire qu'il aurait existé une église organisée avant que l'église catholique romaine se soit organisée. Et elle est devenue une organisation, ce qui était contraire à Dieu. Or, si une chose pareille allait se produire, oh, comme j'aimerais vous faire saisir ceci. Si une chose pareille allait se produire et que ça allait être quelque chose qui serait antichrist à ce point, n'est-ce pas que Dieu le saurait d'avance s'il est le Dieu infini? Il est infini. N'est-ce pas qu'il saurait que ces choses allaient se produire? Et si c'est quelque chose de si horrible, n'est-ce pas qu'il avertirait son Église à l'avance? Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi j'attaque. Non pas les gens qui sont dans les organisations, mais les organisations dans leur essence. Ça ne peut être qu'antichrist, chacune d'elles. Maintenant vous dites, attendez une minute, je croyais que vous ne prêchiez que la Bible. Laissons la Bible le dire alors. Prenons-la maintenant et lisons pendant un moment. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 17. Ceci est la révélation de Jésus-Christ à son Église, l'Église appelée à sortir. Apocalypse 17. Et nous allons essayer de faire aussi vite que possible. Mais regardez bien, maintenant, pendant que nous lisons, l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint vers moi et me parla, disant, « Viens ici, et je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. » Maintenant, tout ceci est en symbole, parce que c'est une révélation de Jésus-Christ, scellée. Le saviez-vous? C'est une chose cachée et qui peut uniquement être révélée, non pas par la pensée intellectuelle, mais révélée par le Saint-Esprit, au moyen des dons de l'Esprit. Que celui qui a de la sagesse compte les nombres de la bête. Que celui qui a de la sagesse, le don de sagesse, qu'il fasse ceci et qu'il fasse cela. Et ceci est la révélation. Or, tout le monde sait que quand une femme est présentée comme symbole dans la Bible, c'est pour représenter une église. L'église de Christ est appelée l'épouse. Paul a dit, « Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. » Maintenant, ici nous parlons d'une femme imposante, qui est une femme de mauvaise vie. « Viens ici et je te montrerai, » a dit l'ange à Jean. La sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. Bon, femme assise sur plusieurs eaux, ça a l'air très mystique, mais tout est ici, la Bible l'explique. Maintenant, prenons le chapitre 15 pour que nous, ou le verset 15 plutôt, du même chapitre, pour que vous voyiez ce que représentent les eaux. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, les eaux sur lesquelles cette femme était assise, elle était au-dessus. Elle avait les nations, les peuples, les foules et les langues sous son contrôle. Elle contrôlait tout ça. Une femme de mauvaise vie. Or, si une femme est de mauvaise vie, si nous savions qu'on disait ça d'une femme sur le plan naturel, dans le cas d'une femme, nous saurions qu'elle a été infidèle à son mari. C'est comme ça qu'on l'appellerait. Donc, elle essayerait de faire croire qu'elle est fidèle à un homme alors qu'elle lui est infidèle. Pas vrai? Eh bien, alors, il s'agit ici de l'Église qui dit que Christ est son mari et dont la doctrine est contraire à son enseignement. Elle est une prostituée et elle a les peuples, les foules et les nations sous son contrôle. Viens ici et je te montrerai sa sentence. Maintenant, nous voyons le tableau. Laquelle les rois de la terre ont commis des fornications, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Des fornications, qu'est-ce que c'est? De l'impureté, d'être impur. Elle est une prostituée. Elle a de l'impureté en elle. Et tous les riches du monde, les rois et les grands hommes des nations et des foules, ont commis des fornications avec elle, ont pris part à ses mauvaises actions. Vous voyez où on va en venir, n'est-ce pas? Voyez? Bon, je ne suis pas responsable d'avoir écrit ceci. Par contre, si je ne l'enseigne pas, de ça j'en serai responsable. Ah oui, c'est de l'Église que nous parlons là. Maintenant, si vous remarquez, alors que nous avançons encore un peu, « Et il m'emporta en esprit au désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. » Je vais traiter ces symboles au fur et à mesure que nous avançons. Bon, écarlate, c'est rouge. D'une part, le rouge, c'est une bonne couleur. D'autre part, le rouge, c'est une couleur de mauvaise réputation. Le feu rouge, la couleur du danger, l'écarlate. Elle était parée d'écarlate. de rouge, une prostituée. Et elle était assise sur une bête. Une bête dont la Bible représente une puissance. Si vous remarquez, il y a beaucoup de ministres, je les vois, qui font signe que oui, que c'est exact, parce que ce sont des enseignants de la Bible. Une bête représente une puissance. Nous voyons ces bêtes de la Bible, d'Apocalypse 13 et de Daniel, qui sont montées de l'eau, des bêtes, des puissances, qui sont montées du milieu des gens. Mais avez-vous remarqué, dans Apocalypse 13, quand les États-Unis sont montés, c'est la seule bête de la Bible qui, quand elle est montée, n'est pas montée des eaux. La Bible dit qu'elle est montée de la terre, où il n'y avait pas de gens. C'était ce nouveau royaume. Et elle ressemblait à un agneau. Mais au bout de quelque temps, elle parlait comme le dragon. C'est ce pays-ci. Ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Un jour, ils feront une erreur et ils éliront celui qu'il ne fallait pas. Ils établiront un Joseph ou un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Ils ont tenté de le faire dans le passé et ils tenteront encore de le faire. S'il n'y arrive pas cette fois, ça finira par se produire. La Bible dit. Je ne suis pas un politicien. Des deux côtés, ils sont malhonnêtes. Moi, je vote pour Jésus-Christ. Il est le seul qui m'intéresse. Mais je vous le dis, vous feriez mieux de bien nettoyer vos lunettes maintenant si vous voulez que vos enfants aient la liberté. Je ne sais pas combien c'est proche. Priez, très bien, ayant regardé bien. Et il m'emporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme, église, assise sur une bête écarlate, bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes. Plus loin ici, il est dit, les 7 têtes qu'avait la bête sont 7 collines sur lesquelles la ville est assise. Maintenant, quelle ville est bâtie sur 7 collines? Rome, exactement. Une ville assise sur 7 collines, une église, une femme, une prostituée qui va contrôler le monde par ses pouvoirs. Voyons, c'est aussi clair que de lire le journal. Voyez, certainement. Donc, et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. La femme, l'église, riche, est parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Indiquez-moi une seule qui ait déjà payé des impôts. Indiquez-moi où elles sont imposées sur quoi que ce soit. On leur laisse le champ libre. Elles font tout ce qu'elles veulent. Et pourtant, Dieu a des enfants là-dedans. Ça, c'est certain. Mais quand même, la poêle ne peut pas dire au chaudron qu'il est sale. Souvent, les protestants vont dire, « Eh bien, les catholiques, ils ont assassiné un tel et un tel. » Qui a assassiné Joseph Smith? Je ne suis pas d'accord avec lui, mais il avait autant que moi le droit de donner son enseignement ici en Amérique. Et c'est l'église méthodiste qui a assassiné Joseph Smith. À l'entrée de la ville de Salt Lake City, ils ont mis une très grande enseigne là. Méthodiste, attention aux grillons mormons. C'est vrai, c'est l'église méthodiste qui a abattu Joseph Smith. Des protestants. Alors, ne poussez pas les hauts cris au sujet des catholiques. Regardez bien, dans quelques petits instants, la Bible le dira aussi. De pierres précieuses, de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine de l'abomination des impuretés de ses fornications. Ses doctrines, ce qu'elle répondait, les rois de la terre buvaient ça. Toute personne qui pourrait croire ça pourrait croire aux pilules vitaminées de Frère Jagger. Qu'on peut asperger de l'eau sur une femme mariée avec un homme depuis 30 ans et qui a eu une tripotée d'enfants pour la rendre vierge de nouveau et l'envoyer au lit nuptial cette nuit-là avec son mari. Toute personne qui peut croire que de l'eau bénite produira cet effet-là peut croire n'importe quoi. C'est vrai, mais les rois de la terre commettent des actes pareils. Ils font ça pour pouvoir vivre et se sentir en paix. Au fond de votre cœur, vous savez que vous êtes pourri. Ils font le sang de Jésus-Christ pour vous purifier. Mais maintenant, remarquez, elle a été la première église organisée. La Bible en parle ici. sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Maintenant, regardez bien, nous sommes tous d'accord, et les livres mêmes de l'Église romaine, les livres mêmes de l'Église catholique s'accordent pour dire qu'il s'agit là de l'Église romaine. Leurs propres livres s'accordent là-dessus. J'ai celui qui s'intitule « Les réalités de notre foi » que seul un prêtre peut avoir. Une catholique s'est convertie à mon... Elle avait un fils qui était prêtre et elle m'a donné le livre en question. Après ça, il l'a persuadée de retourner à l'église. Elle est venue pour le reprendre, mais je n'ai pas voulu le lui remettre. Je l'ai gardé comme preuve. Je voulais savoir de quoi je parlais. Quand je dis quelque chose, il faut que je parle en connaissance de cause. Dieu va me tenir pour responsable de ça. Et souvenez-vous, elle a été appelée Mystère Babylone. Nous savons que c'est l'Église catholique, mais remarquez, elle est la mère des impudiques. Une impudique, qu'est-ce que c'est? La même chose qu'elle, la prostituée. Alors, ces organisations, elles sont sorties d'où? En voilà la mère. Voilà ce qu'elles sont au départ. Alors vous dites, c'est ça l'Antichrist. C'est vrai. Alors si ça, c'est Antichrist, alors qu'en est-il de nos organisations à nous? C'est tout comme une impudique et une prostituée. C'est la même chose. Commettons adultère, commettons des fornications, acceptons des faussetés à cause de la pensée et de l'intellect des hommes. Comme le dit la Bible, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Quelque chose qui se pose au royaume de Dieu. C'est comme dans l'Ancien Testament. Dieu voulait être roi sur Israël avant qu'il devienne une église. Et il l'était, roi. Et bien qu'ils aient eu un prophète, Samuel, un brave homme, qui à ce moment-là leur avait dit ce qu'il en était, s'il voulait avoir un roi. Mais il voulait être comme les autres. Il voulait être comme les Philistins. C'est ça le problème des protestants. Quand les choses vont bien, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils y mettent leur grain de sel. Tout simplement, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, là-bas, il y a 40 ans, et que la puissance a commencé à être déversée, et qu'ils se sont mis à danser, à pousser des cris et à parler en langue, il a fallu qu'ils y mettent leur grain de sel. Il a fallu qu'ils en fassent une organisation. Alors un groupe s'est formé, et on les a appelés Conseil Général. Un autre groupe s'est formé, avec un peu de lumière sur le nom Jésus-Christ. Et eux, on les a appelés ceux de la nouvelle question. Et ils ont été expulsés. Ensuite, ils ont formé une organisation appelée les APJC, les Assemblées Pentecôtistes de Jésus-Christ. Il y a eu une petite friction entre elles sur la question de savoir s'il viendra sur un cheval blanc ou sur la manière dont il viendra. Et ils ont formé une autre organisation appelée les APM, les Assemblées Pentecôtistes Mondiales. Oh là là! Ensuite, il y a eu l'Église de Dieu. Après ça, ils se sont séparés, question de prophétie, et ils ont formé une autre organisation. Chaque fois que vous le faites, vous sortez de la volonté de Dieu, un esprit antichrist. L'Église de Dieu est libre. L'Église de Dieu n'est limitée par aucune frontière, puisque d'un océan à l'autre, tout est à Dieu. Tous les êtres humains qui relèvent de la terre lui appartiennent. Qu'il ait été catholique, protestant ou quoi qu'il soit, Dieu cherche ceux dont le cœur est sincère. Et nous sommes sauvés par la foi en croyant en lui. C'est ça l'Église. Alors, vous voyez, l'Église n'est pas une organisation. Et chaque fois que vous voyez organisation, souvenez-vous-en, Antichrist est écrit dessus. C'est ici, dans la Bible. Ça ne pourrait pas être plus clair que ce que j'y lis, là. J'ai beaucoup de précieux amis assis ici qui font partie d'une organisation. Je ne dis pas que vous êtes antichrist. Je ne dis pas ça de vous. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, et on dirait que le diable a tellement tordu la chose, au point qu'il faut que vous ayez quelque chose du genre. Sinon, ils ne vous laisseront même pas prêcher. C'est pareil chez les nations. Vous ne pouvez pas être un homme sans avoir une nation. Il faut que vous ayez une nation quelque part. Il faut que vous soyez soit américain ou allemand ou autre. Voyez-vous, c'est tout tordu partout. Alors, en réalité, un vrai chrétien né de nouveau est presque errant. Aux yeux du monde, il est un renégat. Mais aux yeux de Dieu, il est précieux. J'aurais aimé qu'on ait le temps de prendre Hébreux 11. pour voir comment ces combattants de la foi, Abraham, qui a déclaré ouvertement qu'il était un pèlerin et un étranger, il a déclaré que ce monde était sa demeure, mais il errait ça et là. Il cherchait une ville dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Et nous, si nous sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et nous sommes ses héritiers selon la promesse. Et alors, qu'est-ce que cela fait de nous? Des pèlerins et des gens errants. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait Moab, le grand pays organisé. Il y avait aussi Ésaïe, le grand pays organisé. Et voici Israël qui arrive, qui était sans dénomination. L'un et l'autre, fondamentalement, ils agissaient selon la parole. Souvenez-vous, Balaam a offert le même sacrifice qu'Israël offrait. Cet autel, ce que Dieu exigeait, sept sacrifices purs, sept béliers, ce qui annonçait la venue d'un juste. Fondamentalement, l'un et l'autre avaient raison, fondamentalement parlant. Mais ce que Balaam n'est pas parvenu à voir, il n'est pas parvenu à voir le surnaturel au milieu d'Israël, de ce groupe interdénominationnel, sans aucun endroit où aller. Ils erraient, mais ils étaient en route vers quelque part. C'est comme ça qu'est l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Elle est sans organisation pour ce qui est du monde, mais elle est unie, non pas par les liens d'une organisation, mais par la puissance et l'Esprit de Jésus-Christ, par les liens de l'amour. Avec ça, un méthodiste et un baptiste vont se tapoter dans le dos et dire « Mon précieux frère », quand ils voient qu'ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Les gens disent « Êtes-vous chrétien ?»« Je suis baptiste. » Ça ne répond pas à la question du tout. Si je suis chrétien, je suis pentecôtiste. Ça ne répond pas à la question. Si vous êtes chrétien, vous êtes une créature née de nouveau. Vous êtes dans un royaume mystique de Dieu. Vos yeux ne sont pas fixés sur les choses de ce monde, mais sur les choses d'en haut. Et c'est à ce moment-là que vous êtes dans l'Église. C'est ça qui est l'Église. Ce n'est pas une organisation. Ça ne pourra jamais être une organisation. Notez bien ce que je vous dis. L'Église du Dieu vivant ne pourra jamais être un certain groupe précis. Elle ne peut pas être une organisation. Elle ne peut être qu'un corps mystique. Le Saint-Esprit, un peu plus loin, si nous avons le temps, nous approfondirons ça. Alors, maintenant, vous voyez ce que veut dire Église? Église, ça veut dire un groupe de personnes appelées à sortir. Un peuple appelé à sortir, qui est gouverné uniquement par le roi de ce royaume messianique. Oh, c'est merveilleux ça, n'est-ce pas? J'aime ça. Quand j'ai lu ça dans aujourd'hui, et quand il est dit là, le royaume, l'empire messianique, l'auteur l'a exprimé ainsi, l'empire messianique. L'auteur disait aussi, l'Église du Dieu vivant n'a jamais été organisée. Ça, jamais. L'organisation, c'est quelque chose qui a été adopté dedans, pour remplacer. C'est exactement de cette manière-là que toutes ces fausses doctrines ont été introduites, pour remplacer les vraies. C'est pour ça que cette femme tenait à la main une coupe des impuretés de son abomination. Maintenant, vous voyez, je ne dis pas, les pentecôtistes sont tout aussi coupables que les catholiques, ou les pèlerins de la sainteté, ou les nazaréens, ou les baptistes, ou les méthodistes. Par contre, dans toutes ces églises dénominationnelles, Dieu a des enfants. Ils font partie de ce royaume mystique. Tout ce qu'ils attendent, c'est de voir se produire ce quelque chose qui attirera leur cœur pour les y faire entrer. Je suis si content de savoir ce soir qu'ils viennent de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils s'en sortent, ils adorent, ils attendent la venue du Seigneur. La Bible dit qu'ils feraient ça dans les derniers jours. C'est tout à fait vrai. Elle dit qu'ils couraient de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour chercher la vraie parole de Dieu. Une famine, non pas de pain et d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Ce qu'ils veulent de vous, venez adhérer à ceci, venez adhérer à ceci. Il n'y a rien à quoi adhérer dans le royaume de Dieu. Il n'y a absolument rien à quoi vous puissiez adhérer. C'est une expérience d'entrer par une naissance dans l'Église. et non d'y entrer par une adhésion. Bon, j'en dirai peut-être un peu plus long là-dessus dans une minute. J'ai noté là d'autres passages de l'Écriture. Mais maintenant, passons à la deuxième réflexion, car nous allons essayer de voir tous les points. Qui l'a établi, ce corps mystique? Qui a fondé celui-ci? Jésus-Christ. Et c'est, il est la tête de ce corps mystique. Il en est le roi, exécutant sa propre volonté dans son empire. Non pas le contrôle d'un évêque, ni le contrôle d'un conseil d'église, mais un roi, c'est-à-dire le Messie lui-même, œuvrant dans son propre domaine. Quand est-ce que ça a commencé? À la Pentecôte. Non pas l'organisation pentecôtiste, l'expérience pentecôtiste. C'est là que ça a commencé en vous. Il a annoncé que cela allait venir. Il a parlé de ce qui allait se produire. Il a dit que cela allait venir. Maintenant, si nous le voulons bien, prenons dans Luc, au chapitre 24, le verset 49. Et nous verrons ici, nous commencerons à lire quelques passages de l'Écriture pour que les gens qui prennent des notes puissent les inscrire. Luc 24, 49. Nous allons voir ce qu'il a dit. « Et voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais vous demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. » Or, il a promis qu'une église allait venir, qu'un royaume allait venir. Maintenant, prenez donc Actes 1, 8. Or, souvenez-vous, il avait aussi annoncé dans Matthieu 16, 18 que sur cette pierre, il bâtirait son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. Nous allons aborder ça dans quelques minutes quand nous passerons à l'autre sujet. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. La venue d'un royaume de témoins, témoins de sa résurrection, témoins de sa puissance, témoins de sa... de ce qu'il est vivant. Vous êtes mes témoins. Donc, Acte 1, 8. Et nous voyons aussi dans Éphésiens chapitre 1, au verset 22, pour vous qui notez ça. Il y en aurait vraiment beaucoup à noter, mais juste pour bien démontrer ça, pour s'assurer que vous êtes, que vous le voyez. Très bien, le verset 22 d'Éphésiens, chapitre 1. Il a tout mis sous ses pieds. Il s'agit de Christ. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui a établi cette Église? Jésus-Christ. Pas un évêque. Pas un groupe d'hommes, pas un pape, pas du tout une puissance de fabrication humaine. Mais Jésus-Christ en a parlé, que ce serait son royaume qui allait venir avec puissance. Quelques-uns de ceux qui sont ici, au chapitre 16 de Matthieu, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Juste quelques jours après ça, il a été crucifié et le Saint-Esprit est descendu. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Lui ont demandé les Juifs. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment, ce que le Père a fixé dans sa propre pensée, mais vous recevrez une puissance. Acte 1, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Vous recevrez une puissance après être devenu évêque, après être devenu prédicateur, après être devenu pape, après être devenu prêtre. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. C'est celui-là le témoin que Dieu voulait avoir. Un témoin après que le Saint-Esprit serait venu. Pas un témoin pour dire que moi, je suis évêque. Pas un témoin pour dire que moi, je suis pasteur. Mais un témoin de quoi? du roi ressuscité. C'est ça, la véritable Église du Dieu vivant. Très bien. Et aussi dans Colossiens 1, 17 et 18. Nous pourrions peut-être lire ça pendant que nous y sommes. Colossiens 1, versets 17 et 18. Lui, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église. Lui, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Qui est la tête de cette Église? Jésus-Christ. De quel royaume s'agit-il? Le royaume messianique. L'Église, non pas une organisation, mais une Église, un corps mystique dont Christ est la tête. Oh, j'aime ça. Marchant selon l'Esprit, obéissant au roi, insensé aux yeux du monde, précieux aux yeux de Dieu, marchant selon l'Esprit, mal compris, raillé, ridiculisé. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. S'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous, s'ils ont appelé le maître de l'édifice, Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ceux qui sont ses disciples? Mais vous marchez selon l'Esprit, détaché des choses du monde, libre de toute entrave. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Amen. C'est ça l'Église du Dieu vivant. Voilà celui qui l'a établi. Alors, ce que nous voyons dans ces témoins, dans Actes 1:8, il a dit, « Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. » L'Église, qu'est-ce que c'est? Le corps mystique de Christ. Qui l'a établi? Le Seigneur Jésus lui-même. Elle n'a pas été établie à Rome. Elle n'a pas été établie en Angleterre non plus, par John Wesley. Elle n'a pas été établie par Calvin non plus, ni en Amérique, chez les baptistes, par John Smith. Elle n'a pas été établie en Californie non plus, par les pentecôtistes. Elle a été établie par Jésus-Christ, le roi du royaume messianique. Voilà celui par qui elle a été établie. Il est le roi. Il veut être roi. Il veut nous gouverner. Il veut être Seigneur. Les gens le laissent entrer, ils disent, « Je le laisserai être sauveur, mais ils ne le laisseront pas être Seigneur. » Seigneur, ça veut dire possession, domination. « Entre dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dis pas quoi faire. » Voilà l'attitude des gens. C'est pour ça, pas étonnant que la Bible ait dit, « Toutes les tables se sont remplies de vomissements. » Vous savez ce qu'est un vomissement. Comme un chien retourne à son vomissement. Si ces organisations, ça n'a pas marché au début, et que Dieu était obligé de les vomir, retournez-y, et elles vous feront vomir de nouveau. Il a dit, « Je voudrais que tu sois ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Vous donnez mal au ventre à Dieu, et il nous vomit. Nommez-moi une organisation qui, une fois tombée, se soit relevée. Montrez-moi une seule, dans l'histoire, qui se soit relevée. Un homme va se présenter avec un ministère. Dieu bénira cet homme. Avant longtemps, il aura un revirement. Il se retrouvera parmi des hommes et il formera une organisation avec ça. Et voilà, c'est ce qui donne le coup de grâce. Fouillez dans l'histoire et trouvez-en une seule qui se soit relevée. Pas une seule, parce que tout ça, c'est un esprit antichrist parmi les gens. Comme Moïse et les autres qui voulaient avoir quelque chose qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Seigneur, cette année, nous avons eu tant de membres. Qu'est-ce que ça peut bien changer, ça? Le nombre de membres que vous avez. Nous ne cherchons pas des membres d'Église. Nous cherchons des membres du corps de Christ qui entrent par une naissance dans le royaume de Dieu. Non pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Non pas par l'esprit de l'homme, ni par l'intelligence de l'homme. Paul a dit, « Je ne suis jamais allé chez vous avec la sagesse des hommes. Je suis allé chez vous avec l'esprit de Dieu et la puissance de sa résurrection, afin que votre foi ne soit fondée ni sur la sagesse, ni sur les discours persuasifs des hommes, mais sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. » C'est avec ça qu'il y est allé. Que Dieu nous aide à faire la même chose. Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chaque point. Maintenant, je voudrais voir, quel est le message de cette Église? Qu'est-ce que cette Église devrait enseigner? Quel est son message? Le premier message qui me vient à l'esprit, que cette Église, ce corps mystique, enseignera, ce sera la repentance. Prenons encore Luc 24, un petit instant. Luc chapitre 24. La première chose que l'Église doit faire, c'est de se repentir. Et elle enseignera la repentance. Maintenant, Jésus se prépare à partir. C'est le dernier chapitre, au moment où il se prépare à quitter la terre. Luc 24, 46. Commençons au verset 46. Et il leur dit, « Il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance est la rémission du péché. » Oh, je veux que ça pénètre bien, parce que je vais en arriver dans une minute à quelque chose qui se rattache à ça, la rémission des péchés. La repentance envers Dieu est la rémission des péchés, fût-ce prêchée en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous, vous êtes témoins de ces choses.
Hallelujah. The witness of the message. Repentance and remission of sins.
Amen.
Must be preached to all nations. It will begin at Jerusalem.
Amen.
Yeah. Oh, glory. Where did organization start? From Jerusalem? No, sir, from Rome.
Amen.
What started at Jerusalem? The baptism of the Holy Ghost.
Amen.
The baptism in Jesus' name for remission of sins.
Amen.
Repentance towards God. That began at Jerusalem and has to go to all nations.
Amen.
Hallelujah.
Thank you, Lord.
You see it?
Souffrit, disent les Écritures. C'est de lui que le prophète parlait. C'est autour de lui que gravit toute la Bible. Tout tourne autour de lui. Certainement qu'il saurait ce qui doit être enseigné. Il saurait ce qui doit être fait. Et il a dit, la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchées à toutes les nations pour servir de témoignage, en commençant par Jérusalem. L'organisation, elle, elle a commencé à Rome. L'Église, l'organisation a commencé à Rome. Elle s'est poursuivie en Allemagne par celle de Martin Luther, ensuite en Angleterre par celle de Wesley, ensuite aux États-Unis par celle de John Smith, en Californie par celle du pentecôtisme. Par contre, l'Église, elle a commencé à Jérusalem. La repentance envers Dieu et le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés commence à Jérusalem. Et il devrait, a-t-il dit. Il n'a pas dit qu'il les atteindrait toutes. Il devrait commencer. Il devrait atteindre le monde entier. Il devrait être prêché. Mais on en trouve très peu. Cependant, c'est bien ce qu'il a dit. C'est ça son message. Le message de l'Église. Montrez-moi l'Église qui enseigne cela. Indiquez-moi où elle se trouve. Vous n'en trouverez pas. Maintenant, Jésus est roi. Le deuxième message. Jésus est roi. Et il est vivant au siècle des siècles. Matthieu 28, 20. Jésus est roi. Et vivant au siècle des siècles. C'est ce que l'Église devrait enseigner. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas vrai? Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le message de l'Église. Faire son œuvre, prouver qu'il est ressuscité et rendre témoignage. Maintenant, Actes 5, 32. C'est là que nous verrons si eux l'avaient, oui ou non. Prenons dans Actes, au chapitre 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il faut rendre témoignage de lui. Dans Jean 14, 12, il donne l'enseignement, ce que l'Église devrait faire. Dans Jean, au chapitre 14, le verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. Jean 14, 12. pour que nous l'ayons lu, pour rendre ça officiel. Très bien, Jean 14 est le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fait, en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. C'est ça le message de l'Église. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vivant dans l'Église, roi de l'Église, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et éternellement, accomplissant les mêmes œuvres, faisant les choses mêmes que Jésus avait faites. C'est ça le message de l'Église. Si l'Église n'enseigne pas cela, elle enseigne une fausse théologie. C'est cela que Jésus leur a ordonné de prêcher. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Comment reconnaîtrons-nous si ces gens, ils disent, « Eh bien, moi, je suis un croyant. Voyons quelle a été la dernière commission qu'il a donnée à son Église pour les croyants. » Marc 16. Prenez Marc, chapitre 16, et nous allons trouver là quel a été son dernier message à l'Église. Ensuite, nous verrons si nous exécutons sa commission. Marc 16, commençons au verset 14. Après, il apparut aux 11. Ça, c'est après sa résurrection. Comme ils étaient à table. Voici la commission donnée à l'Église. Maintenant, écoutez, la dernière commission. Nous allons nous examiner, voir si nous sommes des croyants ou si nous sommes dans cette Église, oui ou non. Après, il apparut aux 11. Comme ils étaient à table, elle leur reprocha leur dureté de leur cœur, leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus après sa ressuscité. Quelqu'un l'avait vu, quelqu'un essayait de leur en parler, et ils ne le croyaient pas. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Nous savons qu'il est vivant. Nous avons le témoignage de son esprit en nous. Nous voyons sa puissance agir sur les auditoires et sur des dizaines de milliers de personnes et discerner leurs pensées, à leur cœur, exactement comme il l'avait fait quand il était ici. Comme la Bible dit, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est lui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle de l'os. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Christ, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Nous le voyons les faire. Combien l'ont vu les faire? Bien sûr, nous savons qu'il les fait. Il vit ici. Il est dans nos cœurs. Il n'y croit pas. Il n'y avait pas cru en ce temps-là. Il n'y croit pas maintenant. Il croit, il est mort, et ça a réglé la question. Et nous, ce qu'on a, c'est quelque chose d'historique. Un homme s'est présenté il y a quelques années, il a établi une église, et il a rédigé un catéchisme. Et c'est à ça que nous nous accrochons. C'est païen, ça. C'est vrai, il n'y a aucune vérité là-dedans. Oh, je ne dis pas vérité. Il se pourrait que cet homme ait effectivement fait ça. Il se pourrait que cet homme ait été, on ne peut plus sincère. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu contrôle son Église. Il n'a jamais voulu de ça. Quand ils ont demandé à avoir un roi, Samuel les a fait venir. Et il a dit ceci. Il a dit, « Je voudrais vous demander quelque chose. Vous ai-je déjà déçu? Vous ai-je déjà réclamé de l'argent? Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui n'ait pas été vrai? Dieu ne veut pas que vous ayez un roi. Il veut être votre roi. » Il a dit, « Oh Samuel, bien sûr, tu as raison. Tu es un bon prophète. Tu ne nous as jamais dit autre chose que la vérité. Tu ne nous as jamais réclamé de l'argent. Ces choses-là, c'est vrai. Mais nous voulons être comme les autres. Nous voulons quand même avoir un roi. » Samuel a dit, « Ça va vous causer des chagrins et des ennuis. Ça va, il va vous ôter vos fils et vos filles. Il va les corrompre par les choses qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. » Et il l'a fait, mais quand même, il voulait avoir un roi. C'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. Oh, il faut qu'on ait une espèce de nom par lequel on puisse être étiqueté. Il faut qu'on puisse dire aux gens, quand ils nous le demandent, qu'on est méthodiste, baptiste, dites simplement que vous êtes chrétien. C'est vrai, comme Christ. Après qu'il était ressuscité des morts, ils ne le croyaient pas. Et il leur dit, regardez bien, c'est la grande commission. Allez dans... Quelle fraction du monde? Oh, je pensais que c'était juste Jérusalem. Quelqu'un disait que ces signes n'avaient atteint que Jérusalem. Tout le monde est prêché l'Évangile. Combien savent ce qu'est l'Évangile? Pas la parole. Paul a dit, l'Évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire exécuter à la parole ce qu'elle dit qu'elle fera. Prêchez l'Évangile dans tout le monde. Prêchez l'Évangile uniquement à la race blanche ou uniquement à la race brune, jaune, noire, à toute la création. Amen. Toute la création. Croyez-vous que c'est bien ce que ça veut dire? Un jour, j'ai vu Dieu confondre un taureau. Je l'ai vu empêcher des frelons de piquer. Je l'ai vu relever un opossum qui avait passé toute la nuit étendu là, sans vie. Toute la création, l'Évangile fera son effet sur tout ce que vous demanderez. Vous dites, c'est faux, frère Branham. Ce n'est pas faux. Jésus a dit à cet arbre, sois maudit que désormais personne ne mange de ton fruit. Et l'Évangile a été prêché à cet arbre. Amen. Je me sens religieux en ce moment. À toute la création. Amen. Prêchez-le à quoi? Toute la création. Oh, si seulement nous avions le temps d'apporter ces choses. Donc, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Oh, moi, je crois, j'ai été baptisé. Excellent, bien, très bien. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Oh, je suis content d'être un croyant. Attendez une minute. Et, c'est une conjonction qui sert à lier les parties de la phrase. Et, ce sont ici les signes. Oh, je pensais que vous ne croyez pas aux signes. Ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Débattez-les avec lui. Ce sont ici les signes qui accompagneront. Non pas, peut-être qu'ils le feront, parfois ils le font. Ils accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, nous allons voir si vous croyez ou pas. Nous allons voir si votre organisation croit ou pas. Il se peut qu'ils disent qu'ils croient. Jésus a dit, ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, eux, ils nient ces signes. Ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'à quel point? En mon nom, ils chasseront les démons. Et vous qui ne croyez pas à la guérison divine, vous, les églises, ceci est enregistré, vous comprenez. Je ne m'adresse pas seulement à vous. Quelqu'un d'autre va l'entendre. Vous déclarez croire en Dieu et croire à la commission, que votre église a reçu la commission de porter l'évangile. Et la toute première chose, c'est la guérison divine. Quelle a été la première chose que Jésus a dite à ses disciples quand il les a envoyés? Matthieu 10, 1. Guérissez les malades, chassez les démons. Quelle a été la dernière chose qu'il a dite à son église? Guérissez les malades, chassez les démons. L'alpha et l'oméga, Benjamin et Ruben. Le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. L'étoile du matin, la racine et la postérité de David. Alléluia, c'est lui. Oui, monsieur, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien qu'à Jérusalem, dans tout le monde, et à toute la création. Est-ce la Bible, ça? C'est ce qui y est dit. C'est ça, le message de l'Église. Tout le monde, toute la création, l'Évangile, tous ceux qui auront cru, ces signes les accompagneront. Mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et vous, pauvres Nazaréens, qui les appelez la bande des langues, vous ne voulez même pas être assis à l'église avec eux. C'est affreux, hein? Vous allez faire quoi quand vous arriverez au ciel? Jésus est mort en parlant en langue. Il disait, il a parlé, et il a parlé dans une autre langue. Bien sûr qu'il l'a fait. Il a parlé en hébreu, ça non. Ce n'est pas l'écriture hébraïque, ça. Il a parlé dans une langue céleste. Quand Abel a offert son agneau sur le rocher, quand le petit agneau agonisait, qu'il lui martelait la gorge, un type de Christ, il y a très longtemps, dans le jardin d'Éden, le petit agneau qui bêlait dans une autre langue, en agonisant. C'était un type, alors que sa laine était sanglante, baignée de son propre sang. C'était un type du Fils de Dieu, suspendu là-bas, au calvaire, taillé en pièces, avec nos péchés sur lui, agonisant en parlant dans une autre langue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça le message de l'Église. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront une nouvelle langue. C'est ce qu'il a dit. C'est ça le message de l'Église. C'est ce qu'il a ordonné à l'Église de faire, de chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur fera point de mal. Ils imposent les mains aux infirmes. Ceux-ci se porteront bien. Voilà la commission de l'Église. Voilà la vraie Église qui croit. Est-ce qu'on enseigne cela chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, les luthériens, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté? Non, monsieur, ils nient cela. Loin. Pourquoi? Ils se sont organisés. Ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de leurs membres qui y croient. Mais il ne peut pas dire un mot là-dessus, parce qu'on l'excommunierait. C'est un esprit antichrist qui les a amenés à s'organiser. L'Église du Dieu vivant est née libre par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont besoin d'aucune domination. Ils suivent le roi du royaume messianique. Ils ne sont pas obligés d'accepter les dires des gens. Ils sont nés libres, affranchis par le Fils, qui les rend réellement libres. Ces signes les accompagneront. Cet évangile sera prêché. Qui va le prêcher? Dieu peut prendre les ignorants. Dieu peut prendre des pierres pour susciter des enfants à Abraham. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu, et c'est sa manière de faire les choses. Quand il est venu, il n'a jamais appelé Caïphe. Il n'a jamais appelé un seul sacrificateur. Il n'a jamais appelé un seul théologien. Il a pris des pêcheurs, des bergers et ceux qui étaient ignorants et sans instruction. La Bible dit que Pierre et Jean étaient tous deux ignorants et sans instruction. Mais il a pu leur donner à eux, œuvrer à travers eux, le royaume de Dieu et jeter la confusion aux yeux et à l'esprit des sages et des puissants. Il disait qu'il reconnaissait que c'était des hommes ignorants et sans instruction, mais ils ont été obligés de reconnaître qu'ils avaient été avec Jésus. Pourquoi? Ils avaient son esprit sur eux. Ils agissaient comme lui. Ils faisaient les choses que lui avait faites. C'est exactement ce qu'il avait dit qui arriverait. Le royaume messianique. Oh, que je suis heureux de ces choses. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Certainement, les signes les accompagneront. Maintenant, une autre chose que cette Église enseignera, ce sera la guérison divine, comme message de l'Église. Je viens de le citer, Matthieu 10, quand il a envoyé son Église. Prenons donc Matthieu 10, 1 pour voir, un petit instant. Regardez bien ce que Jésus a dit quand il a ordonné son Église et lui a donné le départ. Puis, il appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. La première commission qu'il a donnée à son Église, la dernière commission, aller dans tout le monde, prêcher l'Évangile. Celui qui aura cru, qui aura été baptisé, laissez-moi le citer de la façon qu'il faudrait, de façon à ce que ce soit clair. Allez dans tout le monde et dans toutes les nations et démontrez la puissance du Saint-Esprit. Celui qui aura cru à ceci et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui le niera sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Ceux-ci seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ce seront ces signes qui accompagneront. Le dernier verset dit, « Et ils s'en retournèrent. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les signes qui l'accompagnaient. » C'est comme ça qu'était la première Église. Et écoutez, Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Et si un sarment produit du cep et que ce cep porte des raisins, le prochain sarment qui sortira, il portera exactement la même chose que le premier sarment. Oh, vous dites, frère Branham, mais enfin, regardez toutes les églises qu'il y a. Elles, ce sont des cèpes greffés. Bon, on peut greffer des agrumes. On peut prendre un oranger et greffer du citronnier. Et ça va pousser. Ça, c'est ce que vous, ce que l'homme y a greffé. Et ces organisations, c'est ce que l'homme y a greffé. Ça reste toujours un citron. Ça va pousser, parce que c'est sorti sous le nom de l'Église. Mais, je vais vous dire une chose. Si un jour cet arbre produit lui-même une nouvelle branche, celle-là, elle portera une orange. Et si un jour la puissance de Dieu produit une autre église, ce sera une autre Pentecôte et un autre livre des actes sera écrit à la suite de cela. C'est vrai, parce que c'est l'Église de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous ne pouvez pas porter du fruit de vous-même, mais je me déverse moi-même dans le sarment. » Et quelle sorte de fruit est-ce qu'elle a porté? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La deuxième Église qui se lèvera, le corps mystique de Christ, aura les mêmes signes. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, dans chaque sarment, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà l'Église du Dieu vivant. Voilà qui elle est. Voilà la sorte de témoin qu'il a. Bon, et l'Église doit aussi enseigner le baptême. Elle doit être baptisée. C'était la commission. Jésus a dit ici dans Marc 16, nous allons simplement nous y référer. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Croyez d'abord et ensuite soyez baptisés pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra aussi sur... sera un enseignement de l'Église. En effet, Jésus a dit dans Luc 24, 49, c'est tout près d'où nous sommes. Alors prenons-le donc une petite seconde. Le verset 49, ici. Nous avons lu les versets 46 et 47. Regardez le verset 49. Et voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous demeurez ou attendez. Demeurez, ça veut dire attendez. Dans la ville de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Si Christ n'a pas permis à un groupe d'hommes qui avaient marché avec lui pendant 3 ans et demi d'aller prêcher l'Évangile, ou s'ils n'ont pas pu prêcher l'Évangile tant qu'ils n'ont pas attendu d'avoir reçu le Saint-Esprit, il faudra que l'Église d'aujourd'hui fasse la même chose, attendre d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, là, je parlais à une dame catholique dans l'Oregon. Elle disait, « Eh bien, est-ce que vous êtes en train de me dire que cette bande d'idiots qu'il y avait là-bas où vous prêchiez, qui poussait des cris, qui pleurait et tout le reste comme ça, est-ce que vous êtes en train de dire qu'ils seront au ciel et qu'ils régneront au ciel ?» J'ai dit, « Oui, madame. » Elle a dit, « Eh bien, nous, on ne croit pas à ce genre de choses. » J'ai dit, « C'est parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. » Elle a dit, « Nous croyons que Marie intercède pour nous. » J'ai dit, « Ça, c'est carrément païen. Elle n'a jamais été une déesse. Elle est une femme. Mère de Dieu, comment Dieu pourrait-il avoir une mère? Je vous salue, Marie, Mère de Dieu. Comment Dieu pourrait-il avoir une mère? Elle a porté le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aucune femme n'est un créateur. Elle est porteuse de la semence d'un homme. L'homme n'est pas un créateur. C'est Dieu qui crée la vie. C'est tout simplement la marche à suivre habituelle que Dieu a mise en place pour produire des enfants. Elle n'est pas du tout la mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir une mère, puisqu'il n'a eu ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est éternel. Elle ne peut pas être mère de Dieu. J'ai dit, et si je vous disais que votre Vierge bénie, que vous considérez comme une déesse, si je vous disais que Dieu ne lui a pas permis d'aller au ciel, tant qu'elle ne s'est pas comportée comme ces gens-là l'ont fait hier soir. Elle a dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, m'avez-vous dit que c'est l'Église catholique qui a écrit la Bible, les apôtres, dont vous disiez qu'ils étaient catholiques? Je conteste ça. L'Église catholique n'a vu le jour que 300 ans après la mort du dernier apôtre, seulement après le Concile de Nicée. Montrez-moi une page de l'histoire, ou ce que vous voudrez, pas votre catéchisme, parce qu'il ne concorde pas avec l'histoire. Pareille chose n'a jamais existé. Mais j'ai dit, la Marie, la Bible dit que Marie, la mère de Jésus, et les autres femmes, avec les 120, tous, il a fallu qu'ils montent les marches qui menaient à la chambre haute, et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, au point de tituber comme s'ils étaient ivres, de parler en langue et de se comporter comme une bande d'ivrognes. C'est ce que la Bible dit. J'ai mis mon doigt sur le verset. J'ai dit, lisez-le. Elle a dit, je ne veux pas le lire. Je ne dois pas lire ça. J'ai dit, vous n'êtes pas honnête. Voici le passage où la Vierge Marie a reçu le Saint-Esprit et a parlé en langue et a titubé comme une femme ivre. Maintenant, si vous allez au ciel, vous ne pourrez pas y aller avec elle. Parce qu'elle, il a fallu qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Et s'il a fallu qu'elle le fasse, elle, qui était la mère de Jésus-Christ, à combien plus forte raison le devez-vous? Elle a dit, s'il fallait que j'aille au ciel avec quelque chose comme ça, je ne voudrais pas être au ciel. J'ai dit, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Je ne pense pas que vous y irez de toute façon, dans cet état-là, à moins que vous changiez. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de soucis à vous faire de ce côté-là. C'est l'Esprit de Dieu, absolument. Donc, Vous êtes mon témoin après que le Saint-Esprit est venu sur vous. Alors, qu'en est-il maintenant? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce qu'elle est? Qui l'a établie? Et quel est son message? Maintenant, pour faire vite, pour avancer encore un peu, la quatrième chose, comment en devenons-nous un membre? Comment y adhérons-nous? Nous voyons ce qu'elle est, maintenant qu'en est-il? Comment adhérons-nous à cette Église? Vous n'y adhérez pas, vous ne pouvez pas y adhérer. Il n'y a aucun moyen d'y adhérer. Vous y entrez par une naissance. Il y a 51 ans que je fais partie de la famille Branham et je n'ai jamais adhéré à la famille. Je suis un Branham de naissance. Et c'est de naissance que vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Prenons Jean au chapitre 3 un petit instant et voyons un peu ce que Dieu en a dit ici. Comment entrez-vous dans cette église? Quelle est la proposition, ce que Dieu vous offre? Jean chapitre 3 de 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Comment y entrez-vous? Vous y entrez par une naissance. Lisons plus loin la question qui est venue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez, c'était charnel ça. Un enseignant, un grand homme, un sacrificateur d'un âge avancé qui avait lu la Bible toute sa vie. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'est bien comme certains de ces enseignants intellectuels qu'on entend aujourd'hui, n'est-ce pas? Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, comment y entrons-nous? D'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il y entre par une adhésion, vous ne pouvez pas y entrer par une adhésion. Vous devez y entrer par une naissance. » Non pas « venez adhérer », »,« venez naître ». Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dise « il faut que vous naissiez de nouveau ». Le vent souffle où il veut, tu ne sais quel en est le bruit, mais tu ne sais d'où il est venu, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez-vous, vous n'y adhérez pas, c'est une chose mystérieuse. Vous entrez par une naissance dans le corps mystique de Christ. Voilà comment vous y entrez. 1 Corinthiens, chapitre 12. Avançons donc encore un peu. Il ne nous reste que quelques points à voir. Je voudrais bien arriver à les donner, si possible. Si vous voulez bien, je sais qu'il fait chaud. Mais prenons un instant. Commençons par celui-ci. 1 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 13. En effet, d'une seule poignée de main, d'un seul vœu, je fais vœu de croire à la très sainte Église romaine. Venez me serrer la main. Mettez votre nom sur le registre. D'une seule lettre, venez par lettre. Il se pourrait que vous lisiez ça dans l'almanach des anniversaires des dames de l'âge d'or. Mais vous ne le lirez pas dans la Bible de Dieu. Oui, monsieur. Oui. Nous avons tous, en effet, été adhérents, été inscrits, était baptisé dans un seul esprit pour former une seule organisation, un seul corps, qui est le corps de Christ, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, non pas de l'esprit méthodiste, de l'esprit baptiste, de l'esprit pentecôtiste, mais d'un seul Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans cette source remplie de sang. Des veines d'Emmanuel, tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Le brigand mourant vit avec joie cette source de vie en son jour. Et moi qui suis vil comme lui, j'y puis laver mes péchés. Un seul corps. Comment entrons-nous dans ce corps? Comment y entrons-nous? Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et une fois dans ce corps, nous sommes affranchis. La résurrection est garantie. Tu as fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, non pas d'une seule poignée de main, non pas d'une seule lettre de l'Église, mais d'un seul Saint-Esprit. Les Juifs, les nations, les jaunes, les noirs, les blancs, tous ont été baptisés d'un seul Esprit pour former ce seul corps, grâce au sang de sa propre alliance. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et vous êtes affranchis de la mort, affranchis de la douleur, affranchis du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, aucun péché. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, a dit Jésus. Comment pouvez-vous être parfait? Vous ne le pouvez pas. Vous êtes nés dans le péché, vous avez été conçus dans l'iniquité, vous êtes venus au monde en disant des mensonges. Mais quand vous acceptez Christ comme celui qui a porté vos péchés, quand vous l'acceptez, lui, que par la foi, vous croyez qu'il vous a sauvé, qu'il est mort à votre place et a pris vos péchés sur lui, alors Dieu vous accepte et vous fait entrer dans le corps par le baptême. Et il ne peut plus voir aucun péché. Comment puis-je être un pécheur alors qu'il y a une expiation pour moi sur l'autel? Comment un policier pourrait-il m'arrêter en ville alors que les règlements de la ville me donnent le droit de rouler à la vitesse que je veux? On ne peut pas m'arrêter. Si le maire dit, « Révérend Branham, vous allez faire des visites aux malades, roulez à la vitesse que vous voudrez, dans n'importe quel secteur. » S'il me donne une lettre de recommandation à cet effet, aucun policier ne peut m'arrêter. En effet, le maire me fait confiance que je ne le ferai pas à moi d'une urgence. Et quand Dieu m'a accepté et m'a baptisé du Saint-Esprit, il a eu confiance en moi que je ne pécherai pas volontairement. Amen. Que je ne pécherai pas volontairement. C'est pourquoi son fils a fait l'expiation à ma place. Et je ne peux pas être un pécheur du moment que j'ai été justifié et qu'il m'a fait entrer dans son corps. Avec lui, je suis racheté. Il ne s'agit pas de ce que moi je fais, mais ce que lui a fait pour moi. C'est ça l'évangile. Éphésiens 4, 30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Il n'y a pas longtemps, un prédicateur baptiste bien connu me disait, il disait, « Frère Branham, Abraham a cru Dieu et cela lui était imputé à justice. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus que croire Dieu ?» Il disait, « Nous croyons que nous recevons le Saint-Esprit au moment où nous croyons. » J'ai dit, « Mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes honnêtement dans l'erreur. » Paul a dit dans Actes 19 à ces baptistes qui avaient un bon pasteur là-bas, un homme de loi qui s'était converti, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Il a dit, « Ce n'est pas ce qui est dit dans le texte original. » J'ai dit, « C'est bien ce qui est dit. » J'ai le « emphatic diglot » et c'est bien ce qu'il est dit dans toutes les versions, aussi bien en grec qu'en hébreu. Il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» J'ai dit, « Abraham a cru, c'est vrai. » Mais Dieu lui a donné un signe qui indiquait qu'il avait accepté sa foi. Il lui a donné le sceau de la circoncision. C'est vrai, il l'avait accepté, puisqu'il lui a donné un signe qui indiquait qu'il l'avait accepté. Si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas encore assez confiance en vous pour se fier à vous. Quand vous venez à Dieu, Dieu vous scelle du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà le message de l'Église. Amen. Avançons encore un peu. Très bien. Donc, 1 Corinthiens 12, 13. D'un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Acte. Voici le moyen d'y entrer. Voici l'inauguration de l'Église. Acte, chapitre 2. Quand le premier message a été prêché à l'Église, après le jour de la Pentecôte, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Marie, tous les apôtres, tous, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue et ils se comportaient vraiment comme une bande de gens ivres. Et ça a vraiment été quelque chose. Le moment qu'ils ont passé là, à pousser des cris, à louer Dieu et à tituber sous l'effet du Saint-Esprit. Peu leur importait que ce soit dimanche, lundi ou n'importe quel jour. C'était vraiment formidable le moment qu'ils passaient là, à pousser des cris et tout. Mais les grands intellectuels, ils disaient, ces gens se sont enivrés au vin nouveau. Voici Pierre qui se tient là, les clés du royaume accrochées à son côté, les clés qui donnent accès au Saint-Esprit. Jésus a dit, « Moi, je dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Qu'est-ce que c'est? Une vérité révélée spirituellement. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas du tout appris cela dans un séminaire. Quelqu'un ne te l'a pas appris d'après des livres. Mais c'est une révélation, tu vois, une révélation. Moi, je dis que tu es Pierre. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans le ciel. Il faut qu'il tienne sa parole. Le jour de la Pentecôte, qui a été le porte-parole? Pierre, parce que c'est lui qui avait les clés. Et il se moquait d'eux. Il disait, « Ces hommes sont pleins de vin doux. » Pierre a dit, « C'est la troisième heure du jour. Ces gens ne sont pas pleins de vin doux. » Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes servantes et sur mes esclaves, je répondrai de mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et je ferai paraître des signes en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Voici la commission de l'Église. Maintenant, ils veulent savoir comment on entre dans ce corps mystique. Très bien. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Le sermon d'inauguration. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas le modifier. Écoutez, si votre médecin rédigeait une ordonnance pour vous et que vous la portiez à la pharmacie, à une espèce de pharmacien charlatan, vous savez, il pourrait vous tuer avec cette ordonnance-là. Vous voyez, le médecin prescrit un certain dosage parce qu'il a reçu une formation là-dedans. Il vous prescrit un certain dosage de poison et il ajoute à ça un antidote pour détruire une certaine quantité de ce poison. Il faut qu'il y mette quelque chose pour arrêter l'action de l'autre médicament. Et si cette ordonnance n'a pas été exécutée à la lettre, comme le médecin l'a rédigée, ça vous tuera. Là, c'est Dieu qui est le médecin. Il est médecin de l'âme. Il est médecin du salut. Et il a instruit un homme dans sa propre théologie, Pierre, un homme illettré, qui ne savait même pas lire son nom quand il l'avait sous les yeux. Mais il lui a donné le Saint-Esprit et il lui a donné le crayon avec lequel rédiger la doctrine. Alors, le jour de la Pentecôte, il a rédigé l'ordonnance. Voyons ce qu'il a écrit. « Docteur Simon-Pierre, voyons quelle est ton ordonnance pour recevoir le salut. » Voyons dans quel but elle a été rédigée. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que pouvons-nous faire ?» Attention, c'est toi qui as les clés. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà l'ordonnance. Ne la falsifiez pas. Vous allez tuer votre patient. C'est ça qui se passe avec beaucoup de ces gens qui parlent de Père, Fils et Saint-Esprit. Ils tuent beaucoup de gens spirituels qui ont été mal soignés. Pareille chose n'existe pas. Personne n'a jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit dans la Bible. Pareil cérémonial n'a jamais été utilisé avant l'arrivée de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui est la mère de ça. Sondez les Écritures, fouillez dans l'histoire pour voir. La première fois que cette pratique de Père, Fils et Saint-Esprit a été appliquée, c'est par un prêtre catholique. Il les asperge. L'aspersion a été instituée par l'Église catholique, mère des impudiques. Voilà, tout ça, c'est l'impudique. Dans le catéchisme, il est dit, est-il possible qu'un protestant soit sauvé? Il y est dit, parfois, bien entendu, pour la raison qu'ils admettent la doctrine catholique. Ils n'opteront pas pour ce qu'il y a dans leur Bible. Ils baptisent au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, alors qu'ils n'ont aucun passage de l'Écriture pour appuyer ça. Ils disent, mais c'est l'Église catholique qui a instauré ça. Et eux, ils l'admettent. Pour avoir suivi les rites catholiques, quelques-uns d'entre eux pourraient être sauvés. Pareille chose n'existe pas. Personne n'a jamais baptisé comme ça. Personne n'a jamais aspergé dans la Bible, ni versé de l'eau, ni procédé d'aucune autre manière que par l'immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché. Qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure? Et je vous avais dit que j'allais y venir plus tard, que la repentance et la rémission du péché devraient être prêchées en son nom. Où? Rien qu'à Jérusalem, aux Juifs, à toutes les nations, dans tout le monde, en commençant par Jérusalem. Or, le docteur Simon-Pierre a rédigé l'ordonnance. Qu'en est-il de vous, les docteurs? Essayez-vous d'y injecter quelque chose? N'y ajoutez rien. Prenez-la telle quelle. C'est ça la commission de l'Église. C'est comme ça que vous y entrez, en vous repentant et en étant baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, avec la promesse que vous recevrez le Saint-Esprit. Or ça, c'est ce que la Bible dit. Baptisez pour rentrer dans l'Église. Baptisez pour rentrer dans l'Église. Lisons Galates 3, 26, un petit instant. Il ne nous reste plus qu'une, que deux, que trois choses ici, après quoi il faudra que nous terminions. Maintenant, lisons ici dans Galates chapitre 3. Si quelqu'un trouve le passage avant moi, lisez-le. Allez-y. Galates 3, 26. Il se pourrait peut-être que je ne l'ai pas lu, pas écrit comme il faut ici, alors. Il se pourrait que ce soit Colossiens. Lisons dans Colossiens. Je sais où je voulais en venir. Voyons si c'est Colossiens 3, 26. Non, il n'y a pas de 3, 26. Qu'est-ce que c'est déjà? Galates 3, 26? Voilà, je l'ai. C'est exact. Continuez à lire, sœur. Galates 3, 26, vu que vous aviez commencé. Voilà, c'est ça. 26, 27 et 28. Maintenant, écoutez bien. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Comment entrons-nous dans ce corps? Comment y sommes-nous entrés? Baptisé du Saint-Esprit pour entrer dans le corps de Jésus-Christ. Bon, une autre chose qui est le message de l'Église. Comment nous entrons dans l'Église? C'est par la sanctification. Et la sanctification, Hébreux 13, 12 et 13, Jésus a souffert hors des portes afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Maintenant, Éphésiens, prenons-le. Celui-là, il faut qu'on le lise. Éphésiens 5, 25, en vitesse là. Éphésiens 5, 25. Très bien, nous y voilà. 5, 25. Non, encore là, je n'ai pas le bon. Je ne l'ai pas noté comme il faut ici. Voyons un peu. Par conséquent, les prédicateurs, les prêtres... Oh oui, j'ai noté ça en vitesse tout à l'heure. Alors, je n'ai pas dû griffonner le bon... Oh, je n'ai pas la bonne page, c'est ça. Amen. Oui, très bien. Hébreux 12 et 13. Jésus a souffert hors des portes afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Par conséquent, les amis, voici comment nous entrons dans l'Église. En nous repentant, en étant baptisés au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de nos péchés, et avec la promesse que nous recevrons le baptême du Saint-Esprit. Par conséquent, il n'y a aucun prédicateur qui puisse nous y faire entrer en nous secouant. Il n'y a aucun prêtre qui puisse nous y faire entrer par un vœu. Mais nous y entrons par une naissance, opérée par le roi du royaume messianique. Amen. Maintenant, juste celui-ci. Est-ce que je peux en voir encore un? Voici ce que j'avais. Combien vont rester avec moi seulement quelques minutes de plus? Voyez, seulement, il est 9h30. Nous avons dépassé l'heure. Maintenant, pouvons-nous aller au ciel sans l'Église? Je vais seulement donner quelques commentaires là-dessus, parce que je n'ai bien une douzaine de notes ici, comme vous voyez. Mais seulement une chose, pour que nous sachions. Non, monsieur, vous ne pouvez pas aller au ciel sans être un membre de cette Église. Bon, d'abord, dans Jean 3, 5, Jésus a dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et alors vous naîtrez de l'esprit. » Né de l'eau, né de l'esprit. Si un homme ne reçoit ceci, il ne peut même pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut même pas voir le royaume des cieux. Alors, si vous êtes né d'eau et d'esprit, vous êtes dans l'Église. Si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous n'êtes pas dans l'Église. Et vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Est-ce que ça a du sens pour vous, ça? C'est tout à fait vrai. Maintenant, saviez-vous, vous dites, « Eh bien, frère Branham, je crois. » Bon, écoutez, « Et je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. » Non, vous ne croyez pas encore. Vous croyez seulement en vue de parvenir à la foi. Vous avez l'espérance. En effet, dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 3, prenons-le donc en vitesse, pendant que nous en sommes tout près, si vous le voulez bien. 1 Corinthiens 12, le chapitre 12 et le verset 3. On va le prendre en vitesse et lire ça pour voir ce que le Seigneur nous réserve ici. 1 Corinthiens 12, très bien, et le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous ignorez tout de cela tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous dites « J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel ». Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Sinon, vous ne pouvez même pas l'appeler le Seigneur, parce qu'il n'est pas Seigneur. Il est un être historique que par la foi vous avez accepté. Mais une fois qu'il est entré en vous par le Saint-Esprit, il est votre Seigneur. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas en vous, si c'est votre cas, alors vous êtes entré par naissance dans ce royaume et vous faites partie de l'Église. Vous êtes ceux qui ont été appelés à sortir. Alors, vous le voyez? Très bien. Bon. Est-ce que la vie peut sortir d'un grain de maïs si ce maïs n'a pas la vie en lui? Si un grain de maïs est mis en terre, que l'un est fécondé et que l'autre n'est pas fécondé, celui qui n'est pas fécondé, est-ce qu'il pourra revivre? Non, absolument pas. Il n'y a rien en lui. Bien que sur le plan matériel, il puisse donner d'aussi bons flocons de maïs que l'autre. Il donnera un pain de maïs aussi bon que l'autre. Il aura aussi belle apparence à l'étalage que l'autre. Mais s'il n'a pas la vie en lui, il ne peut pas revivre. Un homme qui est un brave homme peut être un bon membre d'église autant qu'un chrétien. Un homme qui est un brave homme peut être un bon citoyen autant qu'un chrétien. Un brave homme, un homme de haute moralité. Mais quand il meurt, c'est classé, à moins qu'il soit né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce qui a eu un commencement a une fin. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Donc, nous sommes une partie de Dieu en recevant sa vie. Jésus a dit, « Je leur donne la vie éternelle ». Le mot grec, là, c'est « zoé », qui veut dire « la vie même de Dieu ». Et le seul moyen pour vous de jamais revivre, c'est d'avoir la vie éternelle, qui est la vie de Dieu, parce que votre vie à vous va périr. Mais sa vie sera ressuscitée, parce que Dieu est éternel. Et vous avez la vie éternelle, et vous ne pouvez plus mourir que Dieu peut mourir. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai de nouveau. La vie éternelle qui est en lui le ressuscitera. Donc, pouvons-nous entrer au ciel sans être dans l'Église? Vous ne pouvez pas être dans l'Église tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas aller au ciel tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'Église. Donc, vous ne pouvez pas aller au ciel tant que vous n'êtes pas un membre de cette Église. Et vous ne pouvez pas être un membre tant que vous n'y êtes pas entré par une naissance. Et maintenant, je vais vous étouffer un peu. Et vous ne pouvez pas être un membre à moins que Dieu vous ait appelé à être un membre. Maintenant, combien vous devriez être heureux de ça? Car vous avez été prédestiné avant la fondation du monde. Et votre nom, vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, le livre de l'Église, avant la fondation du monde. Ça, c'est la Bible. La Bible dit que l'Antichrist, les organisations, l'Église catholique avec les autres organisations, séduira tous ceux sur la face de la terre dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Jésus a dit, « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. » Ce sont ses propres paroles. Ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que lui a fait. Prenons une minute pour régler ça. Prenons Éphésiens chapitre 1 en vitesse. Écoutez ceci. Ici, c'est Paul. Maintenant, il fallait qu'il fasse avancer cette église sur le sujet de la perfection. Paul adresse ceci aux chrétiens. Combien y a-t-il de chrétiens ici? Levez la main. Très bien. Ceci, ce n'est pas pour les bébés. Il s'agit là de ceux qui peuvent manger de la nourriture solide. Maintenant, au chapitre 1er, regardez bien à qui il adresse cela. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. pas par l'ordination reçue de l'évêque, pas par l'organisation. Apôtre, quelqu'un qui est envoyé par la volonté de Dieu aux saints, c'est-à-dire ceux qui sont sanctifiés ou ceux qui sont saints, est fidèle dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse. À qui adresse-t-il cela? À ceux qui sont déjà dans l'Église. Quand vous êtes en Christ, vous êtes dans son corps. Pas vrai? Alors vous êtes membre de l'Église. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment a-t-il fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient parvenus jusqu'au Jourdain. Ils avaient traversé jusque dans le pays promis. Ils étaient assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Nous a bénis ensemble de bénédictions célestes. L'enseignement de la parole, alors que l'Église, ceux qui ont été appelés à sortir, qui sont en Jésus-Christ, alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, en tant que l'Église, une fois que nous sommes nés en Jésus-Christ, ceux qui ont été appelés à sortir, sanctifiés. Oh là là! Quelqu'un à qui il peut enseigner quelque chose. Avec les Corinthiens, il avait vraiment beaucoup de mal à le faire. Mais pas avec cette église-ci. À eux, il pouvait leur enseigner de grandes choses. Très bien. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes. Vous vous souvenez de mes deux derniers messages? Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Selon... Écoutez, ceci va vous donner un choc, là. Selon qu'il nous a, au passé, élus en lui, aux dernières réunions de réveil, est-ce que je l'ai lu comme il faut? Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Avant le monde. Regardez bien ici, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Nous ayons P-R-E accent aigu D-E-S T-I-N-E accent aigu S. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Ce que lui, il a fait. C'est à ça que je regarde. Qu'en a-t-il fait? Il nous a choisis. Il a mis nos noms dans son livre. Dans son livre de l'Église, pour que nous soyons membres de ce corps mystique, dès avant le commencement du monde. Et il nous a prédestinés pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon son bon plaisir de sa volonté. Il faudra que vous soyez dans cette Église-là, frère, si vous comptez y arriver. Car il vient chercher une église. Quelle sorte d'église? Une église qui est sans tache ni ride. Comment pouvons-nous être ça? En étant morts en Christ, baptisés du Saint-Esprit, pour rentrer dans son corps mystique, et avec le sang du Fils de Dieu qui fait l'expiation pour nous à chaque heure du jour. Trouvez irréprochable. Voilà l'église, sans tache ni ride. Il nous a choisis en lui. Et il a mis nos noms dans son livre. La Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau immolé. Il y a 1900 ans, quand donc l'agneau immolé dès la fondation du monde. Quand Dieu, dans la Bible, le mot dans la Genèse, Genèse 1, il est dit « Au commencement, Dieu ». Prenez ce nom, Dieu, en hébreu, et allez voir ce que ça veut dire. Ça s'écrit « El, Ella, Elohim », ce qui veut dire « celui qui existe entièrement par lui-même, celui qui est entièrement suffisant, celui qui a la force ». Il n'y avait rien avant cela. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas d'astre, il n'y avait pas d'humidité, il n'y avait pas d'atmosphère, il n'y avait pas d'atomes, il n'y avait pas de molécules, il n'y avait rien avant cela. C'était Dieu, l'Éternel. Et en lui, il y avait des attributs d'être un sauveur, d'être un père, d'être Dieu. Là, il n'était pas Dieu à ce moment-là. Il était Dieu, mais il n'y avait rien d'autre, aucune adoration. Donc Dieu est un objet d'adoration et il n'y avait rien qui puisse l'adorer. Alors, il y avait en lui des attributs d'être cela, d'être un sauveur, d'être un guérisseur, d'être toutes ces choses qu'il est. Alors, ce qu'il a créé en premier. Bon, certains d'entre vous veulent savoir ce que je raconte au sujet de la Genèse. Dieu a dit, faisons l'homme. Ce qu'il a créé en premier, ce sont les anges, pour qu'il l'adore. C'est là qu'il est devenu Dieu. Ensuite, quand il a dit, faisons l'homme à notre image, quel genre d'homme a-t-il fait? Un homme esprit. Alors, quand il a fait cet homme-là, il lui a donné la domination. Ensuite, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il est tombé. Alors, il est devenu un sauveur. Un Dieu, ensuite un sauveur. Le péché a produit la maladie. Alors, il est devenu un guérisseur. Alléluia! Il n'y a rien qui cloche. Il savait tout ça. Avant même que la terre ait été formée, il savait que nous aurions cette réunion ce soir. Il connaissait chaque moucheron qu'il y aurait sur cette terre. Et combien il donnerait de suif. Et combien de fois il battrait des paupières. Il est le Dieu infini. Il connaît toutes choses. Amen. N'êtes-vous pas heureux ce soir? Que votre nom soit dans le livre. Quelle merveilleuse pensée je contemple à propos d'un grand oiseau tacheté. On dit que son nom est inscrit sur les pages de la sainte parole de Dieu. Les autres oiseaux s'assemblent autour d'elle. Elle est méprisée de tous. Cet oiseau tacheté, qu'est-ce que c'était? Je ne suis pas d'accord avec l'homme qui disait que c'était faux. L'oiseau tacheté de la Bible, qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas Israël, comme on l'a dit. C'était l'Église de Jésus-Christ. Comme sacrifice d'expiation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une tourterelle, ils ôtaient la tête de l'une, ils la renversaient et ils répandaient le sang sur sa compagne vivante. Puis ils lâchaient la compagne. Et la compagne, aspergée du sang de son compagnon mort, s'en allait parcourir la terre, l'aspergeant de ses ailes en volant. Et le sang qui arrosait la terre criait, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel! Saint, Saint, Saint est l'Éternel !» C'était un type de Christ. Et le grand oiseau tacheté, c'est l'Église qui a été tachetée du sang de son compagnon mort, le Sauveur Jésus-Christ. Et elle parcourt le monde aujourd'hui, battant des ailes en criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel !» Amen. Je suis si heureux de la connaître. Je suis si heureux que mon nom soit dans son livre. Il y a été mis, non pas à cause de ma bonté. Non, monsieur, moi, je n'y serai jamais, ni à cause de votre bonté, mais à cause de la bonté et de la miséricorde de Dieu qui, avant la fondation du monde, a mis nos noms dans son livre. Quelle est l'identification de l'Église? Qu'est-ce qu'elle doit être? Qu'est-ce qu'elle a été? Qu'est-ce que c'est? Le groupe qui a été appelé à sortir. Qui l'a établi? Jésus-Christ. Pas un évêque, pas l'Église catholique, pas les méthodistes, pas Luther, pas Wesley. Non, monsieur, qui l'a établi? Jésus-Christ. Quel est son message? La repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, le salut. Comment en devenons-nous membres? En y entrant par une naissance. Pouvons-nous aller au ciel sans elle? Non, monsieur, car Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Et personne d'autre que ceux qui sont morts en Christ. Jésus vient chercher ceux qui sont morts en Christ. Éphésiens 4, le chapitre dit que... Non, je crois que c'est Galates, chapitre 4. Il est dit que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Dieu va ramener avec lui ceux qui sont morts en Christ. Alors donc, elle est un groupe appelé à sortir, un corps mystique. Christ l'a mise en ordre. Avant qu'il meure, il a annoncé que cela allait venir. Il a dit, « Je viendrai comme roi sur ce domaine. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Vous n'aurez rien à faire avec le royaume du monde. » C'est pour ça qu'ils sont dans une telle confusion, appelée Babylone. Quelqu'un qui dit, « Eh bien, Dieu soit béni, moi je suis presbytérien. Dieu soit béni, moi je suis méthodiste. Dieu soit béni, moi je suis... Dieu soit béni, moi je suis chrétien. » Amen. C'est ça. Qu'est-ce qui me fait savoir que j'en suis un? Voici les signes qui accompagnent le croyant. Voyez, là voilà, votre carte d'identité. Pas de dire, « Attendez une minute. » Je crois que j'ai ma carte de l'association. Non, moi je n'en ai pas. La mienne, elle est là-haut. Je pourrais perdre celle d'ici-bas. Mais il m'a dit qu'avant le commencement du monde, il m'a donné ma carte d'identité à tous ceux qui sont entrés dans le royaume. C'est gardé au ciel. pour que les registres soient bien tenus. Je suis si heureux. Quelqu'un disait, j'ai cherché Dieu. Ça, c'est contraire à la Bible. C'est Dieu qui vous cherche, et non vous qui cherchez Dieu. Dieu a parcouru le jardin d'Éden en criant, « Adam, où es-tu ? » Ce n'était pas Adam qui criait, « Dieu, où es-tu ? » C'était Dieu qui criait, « Adam, où es-tu ? » Oh, je suis si heureux d'en être un membre, pas vous ? Je suis si heureux qu'il y ait cette grande église. Je suis désolé de vous avoir retenu si longtemps, mais croyez-vous à cette grande église ? Et croyez-vous ? Croyez-vous qu'elle est un corps mystique ? Maintenant, vous les catholiques, la seule chose que vous avez à faire pour en être un membre, c'est d'accepter Jésus-Christ et de naître de l'Esprit. Vous les baptistes, vous les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, quoi que vous soyez, écoutez bien. Ne pensez pas que je prends le parti des pentecôtistes. Ce sont des renégats pentecôtistes, eux autant que toutes les autres églises. C'est tout à fait vrai. Ils y entrent seulement de nom et de confession. C'est tout. Mais pour ce qui est de la possession, ça, ils ne l'ont pas. C'est vrai. En effet, quand vous naissez de l'Esprit, vous devenez une nouvelle créature. Alors Dieu entre en relation avec vous, comme ses fils. Et vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Quelle que soit l'organisation dont vous faites partie, ça, ce n'est qu'une espèce d'institution du monde. Ça va disparaître. Mais êtes-vous un membre de ce grand corps mystique de Christ ? Si ce n'est pas le cas, puissiez-vous le recevoir ce soir, tandis que nous courbons la tête un petit instant pour prier. Pendant que nous réfléchissons maintenant, est-ce qu'il y en aurait ici qui voudraient lever la main pour dire, « Oh Dieu, je lève la main vers toi, fais de moi un membre de cette église ce soir. Donne-moi cette naissance qui me mettra en possession de cela. M'as-tu appelé, Seigneur ? Alors je veux être un membre de cette église. Je fais partie de l'une de ces organisations terrestres, mais je n'ai pas cette expérience. Je n'ai pas le pouvoir de chasser les démons et de faire ces choses dont tu as dit qu'elles allaient accompagner le croyant. Ça, je ne l'ai pas encore reçu, Seigneur. Et tu as dit que les signes accompagneront. Accompagneront, ça veut dire que tu le feras. Donne-moi le pouvoir, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous, tous ceux d'entre vous qui ont la main levée, que Dieu vous bénisse et vous donne ce pouvoir d'être un membre de cette grande église, l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre, avant que nous prions, que Dieu vous bénisse, jeune dame. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. Oui, je vois vos mains tout au fond. Que Dieu te bénisse, ici. Je vois ta main, mon garçon. Je vois vos mains ici, frère. Oui, que Dieu vous bénisse. Et toi, ma petite là, une jeune fille, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre, levez simplement la main. Que Dieu bénisse cette sœur assise ici. Je veux être un membre. Je veux avoir son sang sur moi. En sortant de ce bâtiment ce soir, pour que je puisse repartir et que ma vie crie, Saint est l'Éternel. Que Dieu te bénisse, là-bas au fond, mon garçon. Que Dieu t'accorde ses bénédictions. Quelqu'un d'autre maintenant qui lèverait la main ? Quelqu'un d'autre qui dirait, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. » Si vous avez à cœur de vous avancer à l'autel pour un mot de prière, pendant que nous chantons ce cantique, « Venez, venez à moi, fatigués, chargés, venez à moi. » Si vous ne savez pas avec certitude où vous en êtes, je vous invite à venir.
While we pray, softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Sing of love for the living that watching. Come, Lord. Let us hum it now. Why should we tarry? Young aged lady has come forward for prayer. Would there be somebody else like to walk up and pray a while tonight? This time, the nation would be blown up. We're living in an awful time. You can't put hopes in nothing today outside of Christ. And why would you risk that soul that God has purchased by the blood of His own Son? Why wouldn't you give your life to Him? What could you lose? Everything's to gain. You say, well, I don't believe in it. Well, the Bible said you're a fool. Why would you... The rich man didn't believe that in the Bible. When the sun was going down, he was laughing and gave. When the sun come up, he was in hell. Why would you take a chance like that, fella? Why don't you come on and give your life to Christ?
Amen.
But I'm not warning you. I'm not threatening you. I'm only laying facts to you.
Amen.
Except you're born again, you'll miss it. What good has life been to you? Just like it's all a bunch of disappointments. Why don't you come find something that's eternal? Get a hold of something that's real. While we sing again, there's three or four around here. Won't you come to once more?
Earnestly.
Your soul, you may never feel that way about it again.
You are weary, come,
oh. Hey, little boys, y'all come on here, come up here. You make your way up.
Oh, you are weary, come.
you a question. Are you through with him? Are you going to turn him away? Or are you going to say like Pilate, bring me some water, I'll wash my hands of this meeting? You can't do that. It's on your hands. Not only is it on your hands, it's on your heart. It's on your conscience. You'll have to live with it the rest of your life. Don't try to wash it off. You'll do like Pilate did, commit suicide someday, trying to get it off your hands. Don't do it. Come now. One more time, and while we're calling, let some man come, good Christian brothers, some of you ministers with these men, some of you sisters that knows how to talk to people, come kneel down. Just pray with them, show them you're interested in them while we're coming now. Come. For prayer. Let's bow our heads now and pray. Lord, we bring to you these tenants, Lord. May your Spirit, Lord, catch fire in their hearts, giving unto them the deep desire and will that they might see Jesus Christ, their Savior, who has bled and died for them, to make them new creatures. Grant it, Lord. We know the Scripture has given us the right of way to believe. Knowing that these who come, you will in no wise cast out. You've made a promise. Your promises are true. He that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life and shall never come to condemnation, but has passed from death unto life. Young and old, give them a life, Lord, of thy Holy Spirit. Grant it, Lord. We ask it in Jesus' name and for his sake. Let them confess their sins.